Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Il y a un événement tout à fait exceptionnel qui se produit cette semaine dans l'émission « Peut contenir des infos » et ça s'appelle « La dernière ».
Les vacances.
Les vacances, l'été. La dernière de la saison, mesdames, messieurs.
Oui, pour se remettre en forme, reprendre un peu nos forces, retrouver des bons sujets, puis on revient à l'automne. Inquiétez-vous pas, mais on revient à l'automne.
Et comment vas-tu, Cathy?
Très, très bien. On a eu une belle semaine avec nos membres la semaine dernière, donc très heureuse.
C'est vrai, hein? Ça, comment je dirais ça? Ça nous ragaillardit.
Je ne pourrais pas mieux dire, Simon. C'est exactement ce mot-là que j'avais en tête.
Exactement ça. Il y a des verbes comme ça qui sont beaux à prononcer. Je me sens ragaillardi.
Écoute, ce sera le mot du jour.
Ou revigoré, c'est un autre très beau mot. Alors, oui, c'est vrai, on a rencontré les membres, puis on aura même l'occasion tantôt de vous faire entendre une petite entrevue avec...
Le président et la vice-présidente de notre conseil d'administration. Et je vais garder le suspense pour tantôt, on va vous les nommer, juste pour que vous restiez avec nous.
Alors, ça va être dans le deuxième quart d'heure tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qu'on aura d'autre d'ici là? Annonce tes sujets.
On aura bien évidemment le moment tant attendu de l'émission, le quiz. Et ce sera un quiz musical en fin d'émission pour toi, Simon. Et j'ai choisi les années 2003-2011. J'expliquerai pourquoi plus tard.
Okay.
C'est très précis et ça me fait rire, c'est juste pour ça. Je te parlerai également, on va faire un tour du pays, donc Festival d'été canadien. On sort nos agendas, on prend ça en note. Il y a quelques festivals qui s'en viennent un peu partout dans les différentes provinces et territoires. Et je vais vous parler aussi de la saison des bals des finissants.
OK, parfait. Alors, ça s'en vient d'ici quelques instants. J'aurai l'occasion, quant à moi, de vous parler d'ici la fin de l'émission de paralysie musicale.
OK, ça c'est quand tu fiches une toune?
Pas tout à fait.
OK.
OK, on va parler de ça tantôt. Et on va ressortir des boulamites, dans une certaine mesure, un vieux classique des technologies de la téléphonie mobile, voilà.
OK, intéressant.
Ouais, on ressuscite ni plus ni moins qu'un vieux modèle, puis on remet ça un petit peu au goût du jour. Puis je pense qu'il y en a certains parmi vous qui sont peut-être un peu nostalgiques, puis que ça va peut-être les intéresser d'aller s'en procurer un exemplaire. Moi, honnêtement, quand j'ai lu ça, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai fait comme « Oh!
Oh! »
Il y a certaines franges de la population, je pense, qui vont être intéressées par ça.
Ah, tu m'intrigues. J'ai hâte de savoir de quel modèle tu parles. J'ai très, très hâte.
OK. Il y a quelque chose de particulier. C'est pour ça que ça va être intéressant.
Oui, bien, j'imagine. Sinon, ça serait plate.
Ben,
ça serait un téléphone comme un autre, mais il y a un petit côté vintage, j'imagine.
Il y a un petit côté pas mal vintage, okay. En effet. Tu vas commencer avec les bals de finissants?
Oui, exact. Okay. Bien, c'est la saison, hein, ça s'en vient. La fin de l'école secondaire, c'est un moment extrêmement important pour nos jeunes. Donc, c'est un grand moment de la vie. Et aussi, ça peut être un moment qui est stressant pour le jeune, mais aussi pour les parents. Ça peut coûter cher.
Ouais, puis c'est ce que j'allais dire.
Oui.
Financièrement parlant, ça peut causer un petit stress.
Oui, bon, si vous êtes très, très prévoyant, vous le prévoyez depuis secondaire 1 et vous avez mis un peu d'argent depuis le début. Mais sinon, quand même, là, ça peut aller avec des montants assez importants. Donc, pourquoi le bal et pourquoi c'est unique? Bien, évidemment, c'est un cycle, c'est un rite de passage, un peu du passage de l'adolescence à l'adulte. On s'entend, là, on n'est pas encore tout à fait mûr à l'âge de passer après le secondaire, mais quand même, c'est un rite de passage qui est important. Donc, la période des bals, qui est pas mal en ce moment, là, jusqu'à la fin juin, c'est pour des milliers et des milliers de jeunes du secondaire pour pouvoir dire adieu au secondaire. Puis aussi, c'est l'endroit où on a forgé un peu notre personnalité, notre caractère, qu'on a appris à se connaître. Fait que c'est une grosse porte à fermer. Comment ça coûte, Simon, tu penses?
Eh, mes aïeux. Tu poses pas la question à la bonne personne parce que je vais te faire une confession. J'ai même pas été à mon bal de finissant de secondaire 5.
Ben, tu sais quoi, Simon? Je pense que j'aurais mis un petit 10 là-dessus.
Ah oui, hein? Tu connais la personne?
Un peu, oui, ben, c'est écoute, ça. Écoute, ça fait ton charme, c'est correct. Je peux te dire que je suis allée et je dansais sur des tables. Donc, il faut quand même prévoir.
Il y a deux mondes. Il y a comme un fossé qui...
Exactement. On est le yin et le yang.
Exactement.
Alors, ça coûte cher, Simon, un bal de finissant, mais on peut s'en sortir pour pas si pire.
Ah ouais?
Environ la tenue, là, moi, je me souviens, à l'époque, juste ma robe avait coûté 500$.
Wow!
Mais j'avais fait mes cheveux moi-même, j'avais fait mes faux ongles, j'avais fait, tu sais, comme je m'étais occupée pour ailleurs. Mais c'était une robe 500$. Je l'ai encore aujourd'hui. Pourquoi? Je pense qu'elle me fait plus. Ou elle me fait encore, mais en tout cas, je veux pas essayer. Hein? Mais je l'ai encore aujourd'hui. Je pourrais la revendre. Comme ça, ça pourrait donner une seconde vie. Puis en même temps, ça serait moins cher pour quelqu'un d'autre.
Ben exactement.
Je pourrais faire ça. Ça serait une des solutions qu'on peut faire. Un habit aussi pour un gars, ça dépend de comment tu veux y aller. Là. Si c'est avec les trois pièces, ça peut quand même coûter très, très cher. Fait que ce qu'on dit, la tenue, ça peut aller entre 100 et 500$. Maquillage, coiffure, si vous décidez de le faire, ça varie entre 50 et 300$ pour les cheveux. Parce que là, c'est une grande coiffure un peu plus élaborée, bien, ça prend plus de temps. Les fleurs, les fameux corsages boutonnières, ça peut aller jusqu'à 100 $ dépendamment. Donc, entre 20 et 100 $ si vous faites quelque chose de beau. Si vous aimez les pissenlits, on peut faire quelque chose de plus réduit aussi. Le transport, hein, la fameuse limousine, Simon.
Je pense juste au bouquet qui est en arrière de la maison, tu sais. Faut que tu casses la tête pour les roses puis les affaires comme ça.
Pourquoi pas porter un bel hosta? Ça serait...
Ça, on appelle ça, c'est ostentatoire.
Exactement. Donc, le transport, parce qu'on peut arriver en grande quand même. Donc, si on y va exubérément avec la limousine, bien, ça peut varier entre 80 et 300 $ de l'heure pour le chauffeur.
Youch.
Et là, la préballe, dépendamment, c'est aussi, vous faites ça dans un hôtel avec le décor et tout ça, ça peut aller quand même jusqu'à 300 $. Donc, budget typique. 300-800 $ selon les derniers sondages pour les parents canadiens, en fait, qui ont dépensé pour leurs enfants pour les balles. Et là, je vous entends faire un petit... Je comprends. On va. J'ai des petits trucs pour vous, là, pour peut-être réduire les coûts pour le bal de finissant. Bon, comme on le disait tantôt, soit louer ou acheter la tenue ou l'acheter encore une fois usagée. Il y a des bons magasins, il y a des bons endroits sur les marketplaces de ce monde, là, c'est possible de le faire. Si on peut faire nos boutonnières, nos maquillages, nos ongles, tu sais, si on peut peut-être réduire ce coût-là, qui était quand même considérable aussi. Puis si vous voulez arriver d'une façon stylée puis que la limousine n'est vraiment pas dans votre budget puis que la vieille voiture de vos parents non plus, bien pourquoi pas peut-être s'informer si les amis de vos parents n'ont pas une voiture sport, genre une Mustang ou un petit quelque chose.
Ouais.
Il y en a, on a plusieurs radios aussi qui sont dans des milieux plus ruraux. Moi, je connais des gens qui sont allés au bal de finissant en tracteur.
Ah!
Arriver comme au restaurant ou à la place là, où se tient le souper en tracteur.
Ou arriver avec le studio mobile de la station de radio, t'imagines?
Ça serait pas pire, ça.
Ça serait pas pire, ça. Tu débarques, là, puis t'es dans le gros studio mobile de la station, lettré aux couleurs de la radio locale, là.
Oui, c'est une bonne idée. Encore des VR aussi, sinon.
Ben
tu sais, comme
oui.
T'arrives, en VR, ça fait quelque chose de
ça
pas pire.
Ça fait vraiment différent. T'as bien raison.
L'important, c'est juste de flasher. C'est pas que ça coûte cher, c'est d'être original. Pour les parents aussi qui nous écoutent, peut-être petit conseil budget, si jamais vous avez un jeune là, qui s'en va pour son bal de finissant, bien peut-être définir d'abord le budget, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite, faire de quoi de réaliste. Mm-hmm. Souvent, à cet âge-là, nos jeunes aussi ont commencé à travailler, soit peu importe, garder des enfants, un petit job d'un resto ici ou là. Peut-être leur demander aussi de contribuer un peu pour qu'ils soient conscients de la valeur de tout ça. Puis, il y a une application aussi, il y a des applications qu'on peut faire qui s'appelle Planet to Prom. Ça permet de suivre les dépenses.
Okay.
Puis ça nous donne, OK, vous êtes en voie de dépasser votre budget, vous faites des économies. Donc, ça peut aider les parents là, afin de prévoir tout ça.
Ouais.
Et finalement, quand on dit bal, il y a après-bal. Donc, pour l'après-bal, c'est important que ce soit un endroit qui est sécuritaire. On peut faire ça directement à la maison, dans un grand terrain, avec des chapiteaux. Il y a moyen de faire ça sécuritairement. Et prévoir le transport aussi du retour. Est-ce que ce sont les parents qui vont aller chercher? Est-ce qu'on prévoit déjà de payer le taxi d'avance, un Uber, peu importe? Parce qu'on s'entend, dans ces soirées-là, il y a toujours un peu d'alcool. Donc, il faut aussi parler de ça avec nos enfants, mais prévoir le retour. Et si jamais il y a une situation où... pour une raison X, Y, Z, il arrive un malaise où on se sent pas bien, prévoir un plan B pour pouvoir partir plus rapidement.
Ben, je suis rassuré parce que je pensais que dans certains cas, ça pourrait coûter une deuxième hypothèque sur la maison.
Ah, ben, il y en a qui sont, tu sais, il y a tout, hein. Il y en a pour qui le bal va finir puis ça va coûter 100 $, on va avoir trouvé, puis il y en a pour qui ça sera 1000. Mais l'important, c'est de suivre le budget puis d'être heureux.
Ben, je suis au moins rassuré de m'apercevoir qu'il y a moyen de faire quand même des affaires qui sont intéressantes sans nécessairement y laisser un bras et une jambe, comme on dit.
Oui, exactement. Puis, ben, pour toi, Simon, c'était une chronique économie. Vu que tu n'es pas allé à ton bal, tu as économisé tout cette belle argent.
Ben oui, ben ça, c'est un peu comme Pierre-Yves McSween dirait. En as-tu vraiment besoin? Ben ça, c'est un peu ce que je me disais à l'époque. Je me dis, moi, c'est. En tout cas, non. Non, c'est pas ma motivation. C'est juste parce que je sais pas. Je n'étais pas comme ça.
Non, mais c'est bien correct. Il y en a à chaque année qui vont pas au bal et c'est correct aussi. Ouais. C'est pas une obligation, c'est un choix. Puis, une année, si tu étais obligé d'aller à quelque part pour être pas bien et puis malheureux, ben vas-y pas, tabarouette. Hein?
Peut contenir des infos.
Alors, je vais vous parler de quelque chose, quant à moi, qu'on est sur le point de voir ressurgir après des années de disparition. Ça va probablement susciter la curiosité de certains d'entre vous, puis je dirais même l'envie d'en posséder un. C'est le fameux et mythique BlackBerry Classic.
Oh, wow! avec sa fameuse petite roulette.
Ah oui, et puis le clavier QWERTY, c'est ça qui faisait la beauté des appareils.
Oui, c'était facile
de texter. Ben, exactement. Mm. Mais il va avoir un nouveau nom parce qu'il a de nouveaux propriétaires.
OK.
Malheureusement. Et pour les inconditionnels de la marque canadienne, ce BlackBerry classique ne conservera pas le système d'opération de BlackBerry, le BlackBerry OS, parce qu'il va être plutôt commercialisé avec le système d'exploitation Android.
Bien, tant qu'il y a un système d'exploitation qui fonctionne, puis il faut chapeauter, il faut le porter, ce système d'exploitation-là, c'est de l'ouvrage quand
et
même.
Faire fonctionner des applications
c'est
dedans.
Ça.
Donc,
voilà.
La boutique du Google Play Store est quand même drôlement mieux garnie que si on décidait de ramener BlackBerry.
Oui. Il y aurait un peu de mise à jour à faire.
Il y aurait quelques mises à jour à faire, effectivement. Mais malheureusement, il ne s'appellera plus BlackBerry Classic parce que l'entreprise qui va le commercialiser, c'est une entreprise chinoise. Mm-hmm. Alors, il va s'appeler le Zenwa Q25 et Q25 Pro, mais... Mais attention...
Il aurait pu se forcer genre Strawberry.
Ça aurait pu...
Tu sais, au lieu de BlackBerry.
Ah, je sais.
Tu sais, comme, come on, appelez-moi, je vais vous aider. Ça aurait pu être pas pire.
Le look and feel là, du téléphone, permettez-moi l'expression anglaise, ça va être quand même comme un BlackBerry classique. Là.
OK, vraiment. Donc, il va se ressembler. On va avoir en main comme le BlackBerry.
C'est pareil.
Super.
Sauf qu'à l'intérieur, on a évidemment mis les composantes au goût du jour. On va retrouver une puce MediaTek à 8 cœurs. Elle n'est pas toute fraîche ou de toute dernière génération. Elle date d'il y a 2 ou 3 ans, mais c'est quand même pas mal. 12 gigs de mémoire vive, de mémoire RAM. Donc, c'est davantage qu'un iPhone 16.
Oh, quand même!
C'est pas mal.
Mm-hmm.
256 gigs de stockage et on va pouvoir d'ailleurs augmenter le stockage avec une carte mémoire micro SD. On va aussi compter sur une puce de proximité NFC.
OK, pour le transfert d'informations, de fichiers.
Exact. Et un port 3,5 mm pour les écouteurs. Une bonne pile, 3000 mAh, 2 appareils photo, un de 50 mégapixels au dos. Ce qui est
okay,
quand même
oui.
pas si pire. 8 mégapixels pour les beaux selfies.
Oui, tout à fait.
À l'avant. Et juste pour fin de comparaison, la version qui existait à l'époque en 2014, le vrai BlackBerry classique, le Q20, là, lui, il avait une puce à 2 cœurs. Là, on est rendu à 8 cœurs.
Eh, boboy, hein?
Il y avait 2 gigs de mémoire RAM. On est rendu à 16 gigs. Il y avait 16 gigs de stockage. On est rendu à 256 gigs.
Aïe, aïe, aïe.
Puis il y avait une batterie de 2515 mAh. Puis là, on va être rendu à 3000. Donc,
il y a une petite marge
quand même. Alors, en résumé, on n'a pas tellement d'éléments internes qui sont semblables à ce que c'était à l'époque, mais à l'extérieur, c'est la même game.
Donc, c'est une coquille vieille avec un intérieur neuf.
Exact. L'écran tactile original va y être, le même boîtier, le même fameux clavier physique QWERTY.
Wow.
La seule petite entorse qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté par obligation un port USB-C pour la recharge.
Oui, évidemment, parce qu'on est rendu là. Puis je pense que c'est les normes internationales aussi.
C'est rendu ça un peu partout. Alors, combien ça va coûter, selon toi, pour ce petit bijou look 2014, mais avec technologie 2025?
Et si je me fie au prix des téléphones, on doit tourner, je dirais, entre 500 et 1000
$400 US.
Hein?
C'est quand même pas si
pire. OK, wow.
400 US okay. pour la version, c'est spécial quand même. Il y a une version qui va être pré-assemblée à 400 US. Puis il va y avoir une version que tu assembles toi-même.
Non, qui va coûter...
Non, mais tant qu'à être geek, soyons geek.
Mais oui, mais c'est sûr. Mais en tout cas, faut pas que tu te trompes. Hein?
Alors, $300 US pour la version à assembler soi-même. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui avez le goût d'embrasser votre petit côté techno, votre petit côté geek, un BlackBerry classique réinventé qui va être disponible à compter du mois d'août prochain, le mois d'août 2025.
Fait que c'est 2 versions, le nouveau BlackBerry, en fait, et le BlackBerry IKEA.
Avec la petite Léa Allen pour te
rentrer. Oui, et puis qui fit avec nulle part d'autre, mais juste pour le BlackBerry.
Exactement. On vient dans un instant, on en sera rendu à notre entrevue avec le président et la vice-présidente de notre conseil d'administration. Restez avec nous.
Peut contenir des infos.
Il y a quelques jours, du côté d'Ottawa, on a reçu les gens d'un peu partout à travers le pays pour l'Assemblée générale annuelle.
Oui, nos 28 membres, presque nos 28 membres étaient présents pour... on se rassemble, comme tu dis, une fois par année pour prendre des nouvelles. L'Assemblée générale, évidemment, le formel, mais surtout l'informel. Et dans le formel, on a des élections qui se sont déroulées et on a un résultat à présenter.
Oui, absolument. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui à l'émission Peut contenir des infos le président de l'Alliance des radios communautaires du Canada, Gary Ouellet.
Salut.
Et on a également la vice-présidente, Alison Roussel.
Bonjour.
Alors, moi, la première question que j'aurais le goût d'adresser, c'est à la présidence, à Gary Ouellet.
Non, mais
à tout seigneur, tout honneur. Alors, Gary Ouellet qui arrive, qui est à un deuxième mandat.
Oui,
Deuxième mandat. Qu'est-ce qu'on attend pour ce deuxième mandat pour l'Alliance des radios communautaires du Canada, là, dont on va dire une vision d'avenir, là?
Oh, une vision d'avenir. Comme tu sais, Simon, tu fais partie de l'équipe et vous voyez, toi et Cathy, un petit peu ce qui se passe entre les murs du bureau. Et c'est très optimiste. Moi, je prétends que la direction actuelle, Louis Bellan, fait un excellent travail dans les 8 mois d'intérim. Mon mandat a juste duré 8 mois. C'est depuis octobre dernier. On était un CA temporaire de transition.
8 gros mois quand même.
Oui, 8 gros mois. On a une planification stratégique qui a été présentée durant les jours du forum. Alors, cette planification-là va être bien sûr suivie de la part de l'équipe de l'ARC. Je pense que le rapprochement avec les membres, c'est quelque chose à envisager et très optimiste aussi pour l'ARC du Canada dans les prochains mois. Louis va accentuer d'ailleurs ce travail-là, j'en suis certain, et vous allez l'aider, j'en suis aussi certain. Ensuite, la pression auprès, bien sûr, de nos bailleurs de fonds pour aider à stabiliser certaines de nos radios, trouver des initiatives aussi auprès de nos membres pour stabiliser et voir à leurs besoins. Donc, c'est bien sûr être à l'écoute et discuter avec eux là, de tout ce qui peut se passer. Et je crois qu'il y a eu un manquement à l'ARC depuis quelques années. Et on redresse ça depuis maintenant un an et demi, et on essaye de continuer ce travail-là pour les prochaines années, bien sûr.
Vraiment, c'est un beau message d'avenir. Et là, on a une nouvelle vice-présidence. Avant, la vice-présidence était occupée par Mathieu Manning, qui est toujours sur le conseil d'administration, changé de chaise, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de projets. Oui, on le salue. Bonjour, Mathieu. Alison, oui. Donc, comment entreprends-tu ou entrevois-tu ce mandat à la vice-présidence?
Vraiment bien. Écoute, une vice-présidence, c'est là pour un peu... comme juste en cas de besoin. J'ai pas l'impression qu'il y a un gros fardeau sur mes épaules, mais c'est certain que Gary fait un excellent job. Gary et moi, on se connaît depuis plusieurs années, donc je pense qu'on va comme communiquer ensemble et je vais être prêt, peut-être s'il y a besoin de quelqu'un dans son angle mort, je serai là. Moi, ça fait plusieurs années là, que je m'implique auprès de l'ARC et je suis vraiment contente d'être à la vice-présidence, mais également qu'on ait des représentations féminines au sein du CA. Oui, absolument. Je pense que ça va être plus une mission là, dans l'ombre de mon côté, mais toujours pourrait aller combler là, si jamais Gary a besoin de moi.
Moi, j'ai le goût de retourner à Gary parce que quand même, c'est un deuxième mandat à la présidence de l'Alliance des radios communautaires du Canada. On s'est tourné un petit peu vers l'avenir il y a quelques instants dans la première question, mais j'ai le goût de faire peut-être une petite rétrospective, un petit bilan de ton premier mandat, Gary. On peut se tutoyer, je pense.
Oui, totalement, Simon. Puis dans ce premier mandat-là, ça a été, écoute, très rapide. Ouais. C'est une transition avec la direction générale qui a changé, l'équipe qui a changé aussi à l'intérieur du bureau de l'ARC, par la suite du travail avec Vignola et Arsenal pour la planification stratégique, mais aussi pour revamper les règlements administratifs. Donc ça aussi, ça a été beaucoup de lecture, beaucoup de travail de refonte un petit peu des bylaws, des règlements de l'ARC du Canada. Là, on est là. On les a acceptés, on les a entérinés à l'AGE. Et là, maintenant, on les voit en œuvre et ça se passe bien. On a d'autres travaux encore à ficeler, bien sûr, à ce niveau-là. Mais depuis les 8 derniers mois, ça a été du travail. Notre direction générale a fait aussi du travail sur le plancher, aller visiter des membres, accompagné d'ailleurs des membres de l'équipe aussi. Donc, de ce côté-là, juste du rapprochement. Et c'est du rapprochement moi-même que j'ai pas vu dans les dernières années de la part de l'ARC du Canada et qu'on voit déjà en 8 mois de transition qui se produit. Et ça augure bien là, pour les prochains mois. Et je veux juste dire que notre exécutif sortant de l'ARC du Canada a fait un excellent travail. Au préalable aussi, on a fait un aussi bon travail. On a eu nos challenges. On continue d'en avoir, c'est sûr, certain. Et c'est ce que je demande d'ailleurs à mon conseil d'administration, de se challenger. Alison dit que ça va être un travail dans l'ombre, mais pas du tout. C'est participatif et j'encourage énormément tous les membres du conseil d'administration à apporter leur voix, leurs questionnements, leurs doutes, puis à me douter moi-même, parce que c'est le même qu'on va avancer en se doutant, en se posant des questions, puis en allant dans les sphères, peut-être qu'on n'a pas envie d'aller des fois, parce qu'on se remet en question, on se pose la question, est-ce que j'ai la bonne décision, tout ça. Mais moi, je veux ça. Puis j'invite mon CA à participer davantage à ce niveau-là.
Gary, tu l'as mentionné, il y a plusieurs changements, il y a des choses qui ont bougé depuis les 8 derniers mois, mais il y a des enjeux qui restent. La beauté aussi d'un réseau comme l'Alliance, c'est le fait qu'on est coast to coast, qu'on peut couvrir le pays au complet, donc on a la francophonie au complet, mais en même temps, ça démontre que c'est des enjeux qui sont différents. Mais il y a des enjeux qui reviennent un peu pour tout le monde, que ce soit le financement, la rétention de la main-d'œuvre. Il y a plusieurs enjeux comme ça. Et comment on voit le prochain mandat ou comment on va peut-être travailler sur ces enjeux-là qui demeurent majeurs pour nos radios communautaires?
Moi, je vais passer le micro à Alison là-dessus parce qu'elle vit beaucoup d'enjeux à l'ARCO. Puis, dans l'Ouest, c'est le territoire. Moi, j'y ai vécu et j'ai vu comment ça peut être difficile de travailler pour une station qui a beaucoup moins de ressources, autant humaines, bénévoles que financières. Puis, l'éloignement aussi. Ça fait la beauté du réseau, mais ça fait un défi aussi pour le réseau. Et je trouve qu'Arleson et Larco ont fait un énormément pas devant là, vraiment depuis des années. Puis Arleson en est une des raisons d'ailleurs. Arleson, toi, comment tu vois ça?
Merci, Gary. Écoute, en effet, là, il y a beaucoup de défis au sein de l'art du Canada, mais je pense que tout le monde voit comme l'art, comme Gary l'a dit, sur un nouveau jour un peu. Puis le CA est très vocal aussi, puis il y a différentes opinions. Donc, je pense qu'on va aller de l'avant avec ça. La rétention de la main-d'œuvre, ça va être quelque chose qui va être difficile, je pense, de regarder comment est-ce qu'on peut se rapprocher de la relève en radio, que ce soit avec la jeunesse ou vraiment le collaborer entre régions. Moi, je vois des différences entre les régions, mais je vois aussi beaucoup de similitudes, puis je pense qu'on se parle pas assez. Donc, on a des projets, que ce soit à l'ARC ou dans les assos régionales, pour vraiment mieux collaborer. Je pense aussi qu'on part sur une nouvelle vague à l'ARC, parce que, moi, je vais être membre qu'on appelle affilié, donc en tant que représentante de l'ARCO. Et ça va être la première fois que l'ARC aura les assos régionales sur son CA. Donc, moi, je représente l'ARCO. Mais dans 2 ans, ça va être l'ARCAN, l'ARCA ou encore une fois Micro. Donc, vraiment, l'ARC va se rapprocher de la réalité des régions avec ses membres affiliés. Donc, ça va être super, je pense.
Moi, des fois, dans les entrevues, j'aime ça sortir un petit peu de la feuille. J'aime ça un petit peu déstabiliser. Puis, j'espère qu'on comprend qu'on est en train de faire une entrevue avec un président et une vice-présidente d'une organisation nationale qui s'appelle l'Alliance des radios communautaires du Canada, dans une émission qui passe d'un océan à l'autre, mais que monsieur et madame tout le monde n'y connaissent pas nécessairement l'Alliance des radios communautaires du Canada. Est-ce qu'on peut faire un petit pitch de vente pour expliquer aux gens c'est quoi dans le concret, puis qu'est-ce que ça apporte à monsieur et à madame tout le monde d'avoir une association nationale comme l'Alliance des radios communautaires du Canada? Puis je vois, est-ce qu'on
c'est
se permet de poser la question à Gary et de faire le pitch de vente avec la vision un petit peu de la vice-présidente Gary?
Mais c'est la beauté de la chose aussi, la double vision femme-homme aussi, on aimait
l'implication. Ils sont dans deux régions distinctes également. Je veux dire, on est au Nouveau-Brunswick avec Gary Ouellet, on est dans la province de l'Alberta avec Alison Roussel. Gary, fait un petit pitch de vente, à quoi ça sert à monsieur, madame, tout le monde, ça, cette association-là?
Bien, c'est sûr que l'un des mots d'ordre de l'Association des radios communautaires du Canada, l'ARC, c'est pas votre agence du revenu du Canada. Elle ne vous donne pas d'argent. Elle vous donne plus que ça. Elle vous donne, puis elle vous enlève pas d'argent non plus. Elle vous donne de l'information locale. Elle vous donne du vécu local. Elle vous donne de la communauté. T'sais. Puis le mot communautaire, on l'éparpille à droite et à gauche, puis il a perdu son sens dans beaucoup d'endroits parce que les communautés se divisent, les pensées sont plus les mêmes, on a accès à de l'information à travers des plateformes à droite et à gauche. T'sais. Mais vos radios communautaires sont sous le joug du CRTC, sont sous le joug du fédéral. Ils ont des comptes à rendre, donc ils doivent faire preuve de professionnalisme. Même si des fois, on semble avoir battre de l'aile un peu, la difficulté peut-être à vous rendre des comptes au niveau local, à vous donner du personnel stable et ainsi de suite, comme Alison l'a mentionné, mais on fait des efforts tout le temps, puis c'est commensurable à travers le national, à travers le Canada en entier. Du côté du Nouveau-Brunswick, tu sais, on a une alliance aussi qui est là, qui est l'Association des radios communautaires du Nouveau-Brunswick, acadienne du Nouveau-Brunswick. Il y a 3 associations, puis je pense qu'Alison l'a mentionné aussi, le rapprochement de ces associations-là avec l'ARC du Canada va aider à ancrer davantage l'ARC dans les communautés aussi, à aider à faire comprendre aux communautés le rôle d'une association nationale et les bienfaits aussi d'une association nationale auprès des membres et auprès de leur communauté par la suite. Il y a des retombées là, dans la communauté. On peut être plus accessible, on peut être plus disponible, on peut être dans les écoles, dans les foyers de soins, dans les endroits qui nécessitent la présence d'un journaliste, d'un reporter, d'un animateur. Et c'est ça qu'on donne. Moi, notre radio, par exemple, c'est pas juste une émission qui se passe entre 4 murs dans une radio. Là. C'est des gens qui louent leur service gratuitement pour aller... animer la chambre de commerce régionale, là. C'est pour aller dans les écoles faire des formations à droite et à gauche, et Alison et Ariane le font aussi du côté de l'ARCO, t'sais. Puis d'autres radios le font aussi, puis c'est toujours un petit peu dans l'ombre, mais là l'ARC dans le futur, et c'est ce que j'entends de Louis aussi, et ce que j'entends de la direction générale de l'ARC, c'est qu'on va mettre beaucoup en valeur ces initiatives-là, on va montrer vraiment ce dont les radios sont capables de faire, et c'est pas juste une institution nationale comme Radio-Canada qui peut bénéficier de sous gouvernementales pour faire ce travail-là. On l'a souvent dit, il y a du gros sous qui se dépense à des endroits où il y a très peu de travail qui se font, et il y a beaucoup de travail qui se fait dans des endroits où très peu de sous sont dépensés, et ce sont chez nous, chez les radios communautaires, chez vos radios communautaires, les gens, monsieur, madame, tout le monde, à travers le Canada, et il faut les encourager, ces institutions-là communautaires, parce que sans elles, vous perdez votre voix, vous perdez votre identité, et c'est la façon de véhiculer vraiment vos efforts, vos réalisations, vos réussites.
Ça va être dur à suivre. Merci, Gary. Non, mais il n'y a pas de trou. Écoutez, bon, pour vrai, j'aurais dû réviser la mission de l'ARC avant de partir dans cette entrevue, mais j'ai une vision un peu similaire. Donc, aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter votre radio communautaire dans votre voiture, à la maison. Vous écoutez Peu contenir des infos et vous syntonisez votre radio communautaire qui a été créée par un groupe de bénévoles dans votre communauté qui avait une vision, votre communauté qui croyait que cette région-là du pays méritait d'avoir un service de radio. Mais vous le savez, les communautés sont limitées, le bénévolat c'est limité, puis les bénévoles ça s'épuise. Et vous l'avez vu, que ce soit des bénévoles ou que ce soit vos directions générales dans les radios, elles ont eu un roulement, il y a eu des hauts et des bas. À quoi ça sert l'ARC? C'est d'avoir une certaine stabilité, je crois. C'est que cette radio-là, dans votre communauté, ne soit pas seule et qu'elle fasse partie d'un réseau qui a un certain standard ou qui a une certaine directive. Donc, l'Alliance des radios communautaires, elle vous représente, votre radio, et donc, elle fait en sorte que vos radios puissent aller chercher du financement. Elle fait du lobby auprès des gouvernements. Elle vous rassemble, elle apporte une certaine conformité, mais elle n'est pas là nécessairement non plus pour régir votre radio communautaire, elle est là pour l'appuyer. Ici, on a Simon avec nous et en fait, Simon répond à de nombreux appels de vos directions générales à chaque semaine. Simon, c'est notre bibliothèque. Alors, c'est vraiment l'ARC, le point de ressource pour votre radio, pour la direction et pour les CA de vos radios, pour s'assurer qu'elles ne soient pas seules et qu'elles ne se sentent pas abandonnées. C'est ce que je dirais davantage aussi.
Ah, je vous achète une auto, puis je vous achète une maison. Vous êtes des bons vendeurs.
Good. On leur a même pas donné un petit cadeau avant l'entrevue.
Non.
Allez, du fromage à la table.
Alison Roussel, merci beaucoup. Gary Ouellet, merci. Bon mandat, 2 ans chacun?
Oui, 2 ans
pour,
chacun.
Sur le conseil d'administration de l'ARC.
2 ans avec toi? OK, ouais. C'est bon.
Même moi, j'étais surpris.
Tombe pas malade, là.
Merci beaucoup pour votre temps.
Plaisir.
Merci.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
Toi, tu veux faire le tour du pays un petit peu pour nous parler d'art et de culture.
Oui, exact. Comme c'est la dernière émission de la saison, ben j'aurai pas la chance cet été de vous parler des différents événements qui vont se dérouler un peu partout dans le pays, j'allais dire dans la province, mais dans nos provinces et sur les territoires. Donc, j'avais envie de faire une tournée des festivals d'été canadiens. Donc, j'en ai sorti un par province ou par territoire, puis on passe au Nouveau-Brunswick. T'es prêt? Donc, le festival du homard de Shediac. Oh. Ou comme les mères appelées, le Shediac Lobster Festival. Donc, c'est du 5 au 13 juillet. Donc, Shediac, qui est la capitale mondiale du homard. L'année passée, en 2024, il y a eu une dégustation de plus de 2000 livres de homard quand même.
Wow!
Et ça, c'est de la pince, mon monsieur. Mais ça, c'est quelque chose. Il y a plusieurs concerts également cette année qui vont être offerts. Les Leblancs vont être là, Colleen Evelyn, Pretty in Pink, The Militants et Riverbanks. Donc, quand même une programmation qui va être assez complète. Et il va y avoir des événements de dégustation pour ceux et celles qui sont des amateurs, là, comme dégustation de bière et homard qui s'appelle Ales and Tales. Ou encore le homard et vin, ceux qui préfèrent le vin, Corks and Claws. C'est bien, hein? Ben, j'adore ces expressions-là.
J'adore.
Maintenant, on se déplace du côté un peu plus loin, à l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est le Prince-Édouard Island International Sailfish Festival. Je suis contente de ma prononciation dans tout ça.
Passé à travers, puis t'as réussi à tout avoir ta respiration tout au complet. C'est bon.
Je me suis pratiquée un peu.
Un petit peu, OK.
Ça se passe donc à Charlottetown et c'est une compétition en fait culinaire. Encore une fois, les allergies aux fruits de mer, c'est peut-être pas votre place, là. Il y a beaucoup de ces festivals-là dans l'Est du Canada, mais c'est le trésor national, là, les fruits de mer et le homard, donc faut en profiter. Donc là-bas, c'est beaucoup des compétitions de chowder. Il y a des jeunes chefs locaux et internationaux qui font des compétitions. Il y a des concerts folk maritime, dégustation d'huîtres, de crabes, de homards et de moules. Et ça se passe là, pour... c'est le temps d'une fin de semaine. C'est du 18 au 21 septembre. On va avoir quand même le temps de vous en reparler, mais quand même, je voulais que vous sortiez votre agenda et vous puissiez le mettre les dates à noter.
Mais il y a des gens qui prennent leurs vacances de plus en plus tard dans l'été. Tu sais, comme il y a une espèce de décalage, je trouve, depuis quelques années, je dirais même depuis quelques décennies, on dirait que les saisons décalent un petit peu.
C'est vrai, tu as raison.
L'été commence un petit peu plus tard, puis ça s'étire plus longtemps au mois de septembre. Fait que tant mieux.
T'sais. Oui, c'est vrai. Puis moi, j'ai encore souvenir de plus jeune, c'était plus froid en septembre. Puis finalement, encore à ce moment-ci de l'année, en septembre, ou dans ces temps-ci, là, on est très, très, très confortable. En Nouvelle-Écosse, le SeaFest, aussi simple que ça, c'est 12 jours de festival autour de la mer. Donc, on parle des parades maritimes, des bateaux, piétonnes. Là. Je pense pas que c'est des gens qui marchent sur l'eau. On doit marcher autour de l'eau, quand même. Moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Wow! Il y a des gens
c'est
qui marchent.
C'est-tu Jésus?
Donc, parade maritime en bateau et piétonne, des courses nautiques, il y a des voitures vintage aussi, des concours, que ce soit pour courir. Il y a des visites historiques aussi et c'est tout dans une ambiance rétro pour ce festival qui se déroule en Nouvelle-Écosse. Ici, en Ontario, c'est le Ottawa Blues Fest qui est le gros festival de l'été. Ça se déroule sur 10 jours, donc t'es encore resté sur mes gens qui marchent sur l'eau, hein?
Je suis encore avec Julie. qui est en train de passer devant mes yeux.
Vous devriez voir la face à Simon de toute beauté. Donc voilà, le Ottawa Blues Fest qui va se dérouler sur 10 jours ici même à Ottawa, donc du 10 au 20 juillet 2025, avec des têtes d'affiches internationales dont Lainey Wilson, Osier, Cheyenne Twain va être là pour ton New Country, Simon.
Ben oui,
hein, Drette pour toi, Cheyenne Twain. New Country. Def Leppard, Sean Paul qui va être là aussi, Green Day. Là, le groupe de ma jeunesse.
Ah ouais, hein?
Quand même. 2003, c'était un gros album, ça. Gros album. Et c'est un festival qui est assez important aussi. Donc, depuis 1994, le Blues Fest s'est imposé. Au début, c'était du blues, évidemment, ça le dit dans le nom. Et avec le temps, on a intégré tous les styles de musique. Et fait intéressant, savais-tu qu'aujourd'hui, le festival attire plus de 300 000 visiteurs sur 10 jours dans la capitale?
Hey, c'est du monde, ça.
Et les retombées économiques, 37 millions de dollars en retombées touristiques pour la capitale ici, pour les villes. Donc, ces festivals-là dont je vous parle, oui, c'est le fun, oui, c'est intéressant, mais c'est aussi un moteur économique important pour nos différents milieux.
C'est ça.
Au Manitoba, le Folklorama, qui est un festival sur 2 semaines au début août, ça se passe à Winnipeg, au Manitoba. Donc, c'est le plus grand et le plus ancien, c'est ce que j'ai appris du genre au monde. Donc, on a 40 pavillons culturels qui sont répartis un petit peu partout dans la ville. Et ce festival-là a été créé en 1970 pour le centenaire du Manitoba. Donc, ça a tellement été populaire qu'on a décidé de faire un événement annuel de tout ça. Et depuis le temps, c'est devenu un événement incontournable. C'est plus de 20 000 bénévoles qui accompagnent les touristes pour aller visiter ces pavillons-là. Et c'est environ 400 000 passages dans les pavillons qui sont comptabilisés annuellement seulement. Donc, tu peux parler, là, on parlait de retombées économiques importantes. Ça, pour le Manitoba, pour Winnipeg, vraiment, c'est un événement incroyable. Puis en même temps, ça permet de visiter différents pavillons sous différents thèmes, que ce soit la culture, que ce soit la nourriture, que ce soit des échanges interculturels. Donc, des différentes cultures aussi du Manitoba avec les Premières Nations. C'est assez intéressant. En Alberta, maintenant, on parle de Brewery and the Beast. Ça se passe à Calgary. Et ça, honnêtement, si t'es un fan de barbecue, de viande, c'est ta place. C'est une seule soirée. Ça se passe de 13h à 17h quand même. C'est assez rapide. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les billets coûtaient très cher, mais c'est parce que t'as accès à tout.
OK.
Toute la nourriture est incluse et tous les breuvages est inclus aussi.
Wow.
Donc, c'est sur... puis là, tu dégustes. Donc, c'est vraiment plusieurs chefs. Là, c'est des chefs de Calgary et de Banff qui proposent en fait des plats qui sont cuits sur feu ouvert dans les rues. Donc, tu te promènes là, avec ton assiette. Ah, tiens, voilà du poulet. Ah, voilà du steak. Puis là, tu goûtes à tout ça avec tes breuvages. Puis c'est 4 heures de festival. Puis après, ben, t'as fini de goûter à tes choses. Puis ce qui est bien dans tout ça, dans cet événement-là, c'est que c'est de la viande locale et éco-responsable. Fait que c'est vraiment de la viande de la place, des producteurs de la place.
Génial.
Fait que c'est encore une coche de plus. En Colombie-Britannique, le Shamba Lamba Music Festival qui se déroule du 25 au 28 juillet. Et donc, c'est à Salmo River Ranch, donc c'est en Colombie-Britannique. Et c'est déjà la 26e édition. C'est 4 jours, 3 nuits. Il y a 10 000 participants qui sont attendus là-bas. Il y a 6 scènes. Donc, c'est de la musique techno, de la EDM. Donc, on danse jour et nuit avec des performances artistiques, des performances en pleine nuit. Pour ce festival-là, on s'entend, c'est pas familial. Là, c'est 18 ans et plus. Faut être un adulte pour pouvoir y aller. Puis, je termine avec nos territoires. En fait, territoire du Nord-Ouest qui est le Northwest Territory Culinary Festival qui se déroule du 24 au 27 juillet. C'est à Yellowknife et comme le titre le dit, ben c'est des chefs, des pêcheurs, des cueilleurs locaux qui nous amènent, qui font découvrir leurs produits, qui les cuisinent, qui nous les transforment. Donc, c'est un bel événement pour découvrir aussi les cultures et les produits des Premières Nations là-bas. Et je termine avec le Nunavut qui est le Alina Art Festival. Les dates ne sont pas encore déterminées. Normalement, ça se déroule vers le début juillet, mais c'est un festival
festival d'art multidisciplinaire. Donc, il y a des concerts la nuit, des concerts inuit, des concerts nationaux de différents artistes un peu partout au Canada. Il y a de l'humour, du théâtre, des arts visuels et ça se passe sous un gros chapiteau. Donc, ça reste à surveiller là, pour la programmation 2025 qui s'en vient. Donc, si jamais vous avez des intérêts ou quoi que ce soit, je vous invite à aller visiter les différents sites touristiques des provinces, que ce soit pour les territoires du Nord-Ouest ou Colombie-Britannique. Là, vraiment, c'est assez complet.
Merci pour ce tour du pays. Alors, on va vous souhaiter un bon voyage à travers le Canada au cours de la saison estivale. Je vais vous parler d'un phénomène encore relativement peu connu du grand public, mais qui est quand même fascinant et qui est de mieux en mieux documenté. Ça s'appelle la paralysie musicale. Hmm. Déjà entendu parler de paralysie musicale?
Absolument pas. Tu vas m'apprendre quelque chose aujourd'hui, Simon.
La paralysie musicale, c'est l'incapacité ou le désintérêt à découvrir de nouvelles musiques.
Ah!
Ouais, c'est un phénomène où les individus se limitent à écouter des genres musicaux, des artistes ou des chansons qu'ils connaissent déjà et ils font plus de découvertes musicales.
Non, mais ça m'est déjà arrivé. T'sais, des fois, tu vas, je sais plus quoi écouter, je vais écouter mes bons vieux classiques.
Et mais il y a différentes études qui ont été réalisées sur ce phénomène, absolument, phénomène qui est, je dirais pas émergent, mais qu'on comprend de mieux en mieux. Et parmi les facteurs les plus déterminants pour sombrer dans la paralysie musicale, c'est le vieillissement.
Ah oui, hein?
Ouais. Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est que plus on vieillit, plus on est réconforté par les chansons et les musiques qu'on aime. Et, ce faisant, moins on est intéressé à faire de nouvelles découvertes musicales.
Ouais, puis c'est là qu'on entend nos mononcles dire « Ouais, la musique de nos jours, c'était pas comme dans le temps. »
Oui.
Ouais, un peu ça, hein?
Et vous savez pourquoi on s'intéresse de plus en plus à la paralysie musicale? C'est parce que l'offre musicale est de, et curieusement, de plus en plus grande.
Bien, il y a de plus en plus de plateformes, il y a de plus en plus de façons de diffuser sa musique maintenant.
Il y a une étude qui a été réalisée pour le compte du service musical Deezer auprès de 5000 répondants au Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, France et Brésil et qui a révélé que la paralysie musicale survient de façon assez générale vers l'âge de, selon toi?
J'aurais envie de te dire 47.
Plus jeune que ça.
Ah, vraiment?
Beaucoup plus jeune que ça.
Quel âge?
30 ans à peu près.
Ah! Je pourrais vivre de la paralysie musicale.
Ouais. Écoutez, il faut savoir d'abord en partant que pour les hommes, l'âge critique pour développer nos goûts musicaux de façon durable, c'est à peu près entre l'âge de 13 et 16 ans.
Oui, de l'adolescence, nous, on se forme, effectivement,
oui,
tout à fait.
On est des éponges, hein?
Oui.
On absorbe tous les goûts musicaux, on est appelé à la découverte et tout ça. Chez les jeunes femmes, c'est un petit peu plus tôt, c'est entre l'âge de 11 et 14 ans.
Ah, oh, ça fait du sens. Ça fait du sens.
Donc, à cette époque-là, à l'adolescence, là, on absorbe beaucoup de genres musicaux, on fait des découvertes, on achète de la musique et tout ça. Puis, passé le cap de la vingtaine, déjà, on est moins enclin à faire des découvertes, puis passer le cap de la trentaine, ah ben là, c'est fini.
Ah oh, ouais, ça ne tente plus pantoute.
Ben, ça nous tente plus. Ça peut arriver qu'il y ait certaines personnes qui découvrent encore de la musique, mais de façon générale, c'est là où la paralysie s'installe à partir de l'âge de 30 ans et 6 mois à peu près, dit-on.
Tu vois, la réflexion est bonne parce que je pense pas que je découvrirais tant de nouvelles musiques si j'avais pas un abonnement à une plateforme comme YouTube Music, exemple.
Entre autres choses,
oui. Parce que des fois, je mets une chanson que j'aime, puis là, de cette chanson découle d'autres chansons que je connais pas. Puis je dis, ah, ça, c'est bon, mais si, comme je serais pas allé naturellement, t'as raison.
Bien, parce que la musique, c'est un peu comme de la comfort food quand tu y penses.
Oui, c'est vrai.
Tu sais, on aime ça, se retremper les oreilles, prêtez-moi l'expression, dans des affaires qui nous réconfortent, qui nous rappellent des souvenirs, qui nous rappellent certains événements et tout ça, qui nous rappellent notre jeunesse. Fait que rendu à 30 ans, quand la famille est installée, quand tu commences à avoir les billes rentrées pour l'électricité, le téléphone, les affaires comme ça, tu as le goût des fois de décanter un petit peu puis pas partir dans des grandes découvertes puis de tu dis ah je vais repasser mon vieux disque de Bob Dylan mettons ou quelque chose dans le genre.
Ben ouais, je vais ressortir mes vinyles.
C'est ça ou mon rock voisine on va dire, tu sais.
Oui.
Alors, à quoi la paralysie musicale est-elle problématique selon toi?
Ben j'imagine que ça amène peut-être une fermeture d'esprit puis qu'on n'est pas ouvert à découvrir de nouvelles choses.
Ben voilà, entre autres choses, donc une difficulté à s'adapter aux évolutions musicales.
Mm-hmm.
Ça peut entraîner également une perte de diversité culturelle.
Ben oui, quand on va toujours voir la même chose de manière.
Ben c'est ça, donc il y a une espèce de fermeture. Puis il y a moins de stimulation cognitive également, parce qu'on sait que la découverte de nouveautés artistiques et culturelles, ça aide à faire travailler le cerveau.
Ah, c'est bien.
Le cerveau est un muscle, donc quand on découvre des nouvelles sonorités, des nouveaux groupes, de nouveaux artistes, ben ça nous amène un petit peu à sortir de notre zone de confort, puis ça fait travailler notre cerveau. Comment on règle ce problème de paralysie musicale? Parce que moi, je suis en plein dedans. Je dois t'avouer que moi, des découvertes musicales... Ah, J'en fais plus tellement.
Oui, bien là, mais tu m'inquiètes, là, je savais pas que j'étais dedans. Fait que vas-y, comment on fait?
Alors, comment on fait? On écoute la radio, entre autres choses.
Bonne idée.
Bon, hein, on peut prêcher pour notre paroisse.
100%.
Parce que la radio a des playlists qui nous font des fois sortir un peu de notre zone de confort, pour peu, évidemment, qu'on n'écoute pas toujours nécessairement la même radio. Mm-hmm. On va dire, c'est drôle pour un gars d'une alliance de radio communautaire d'inviter à écouter d'autres radios, mais...
Bien, écoutez toutes les radios de notre alliance.
Exactement.
On en a 28.
Allez sur nousradio.ca, voilà. Puis vous allez en avoir 28 qui sont là.
Et la de tous les styles, c'est la beauté de tout ça, il y en a pour tout le monde.
Les playlists aléatoires, t'aimes ça, toi, tu disais tantôt.
Oui.
Alors ça, c'est une autre façon. Écoutez les recommandations des autres. Si quelqu'un vous dit, t'as-tu entendu telle chanson, puis vous dites, non, ça ne m'intéresse pas. Bien, c'est pas de même, vous allez faire des découvertes.
Oui, mais moi, je vais t'avouer que souvent, c'est parce que des gens ils m'ont dit, hey, écoute ça, c'était écœurant, c'est bon. Puis j'écoutais à tune, puis j'étais comme, c'est pas si bon que ça. Fait que des fois, je me dis, OK, peut-être, on va l'écouter, puis on verra. Baissons la barre.
Changer d'environnement musical.
Oui.
Dans l'auto, on écoute tel style de musique. Des fois, quand on fait du jogging, on veut écouter un autre style de musique. Ouvrez un petit peu vos horizons. Vous allez voir peut-être que vous allez découvrir ou que des chansons vont avoir une autre perspective dans un autre mood, on va dire, que si vous les écoutiez assis dans votre salon en avant de YouTube Music, par exemple.
Oui, c'est ça. Ou en faisant du ménage. Moi, j'écoute beaucoup de la musique de discothèque quand je fais du ménage.
Oui.
Je sais pas, je danse avec ma balayeuse. Il y a quelque chose. Je bouge plus vite, puis il y a quelque chose.
Et tester des genres inconnus, évidemment. Forcez-vous à sortir un peu de votre zone de confort. Vous n'aimez pas ça, le classique? Ben, de temps en temps, écouter du classique. Peut-être que vous allez... dans un instant, parlant de musique, on a le quiz?
Oui, ça sera notre quiz musical. Et j'ai même mis des extraits cette semaine, Simon, juste pour nous divertir. C'était la dernière. J'ai envie de mettre un peu de glaçage sur notre dessert.
Alors, parfait. Dans un instant, on teste nos connaissances musicales. Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz.
Le quiz.
C'est la dernière émission de la saison et c'est le dernier quiz de la saison en même temps.
Ben oui, ça va ensemble, c'est sûr.
Et cette semaine, tu as décidé de tester nos connaissances musicales.
Oui, connaissances musicales des années 2003 à 2011. Tu en as parlé tantôt dans ta paralysie musicale que nos oreilles se faisaient plus jeunes, mais tu vois, moi, ça, c'est mes années d'études. Du secondaire au cégep.
2003-2011, j'étais déjà rendu dans l'âge où je commence à être paralysé musicalement.
Ça va être intéressant. Parfait. Ben, on va commencer ça, OK? Puis on va voir ce que ça donne. T'as un crayon, tu prends des notes, c'est beau?
Après, donne-moi deux secondes.
Oui, prends le temps, on va pouvoir prendre ça, ça va être intéressant. Mais okay. C'est des gros hits quand même. Ben, j'imagine.
OK.
Ça devrait être pas si pire. Première question. En 2003, quelle chanson de Beyoncé a marqué son envol en solo après Destiny's Child? Est-ce que c'est Baby Boy, Naughty Girl, Crazy in Love ou Be With You?
Je dirais Crazy in Love.
Bonne réponse.
Je suis obligé d'avouer que celle-là, je la connaissais plutôt bien.
Mais oui, ben c'est ça je te dis. Là, c'est une grande période musicale. Je pense que tu devrais être possible.
OK.
Question numéro 2. Quel groupe canadien a connu un succès mondial en 2005 avec la chanson Photograph? Est-ce que c'est Simple Plan, Nickelback, Sum 41 ou Billy Talent?
T'es un peu... Sum 41, mettons.
C'était Nickelback.
Ben, c'est ça, là. Je suis en train de m'apercevoir que je suis passé à côté de mes pompes.
Non, mais c'est pas grave. Écoute, 1/2 à date, ça va bien.
Mais
ben,
Nickelback, c'est pas... C'est canadien, ce Nickelback?
Oui, c'est canadien. C'est un groupe canadien.
Je veux pas être contre les Canadiens, mais mettons que ce groupe-là, c'était pas de mes préférés, nécessairement.
Il y a beaucoup de gens qui aiment pas Nickelback.
Ben, c'est ça.
C'est correct. On accepte les choix.
Ben oui, c'est ça. Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit.
Tout à fait. On change de style musical. Quel tube de 2006 de Gnarls Barkley a été le premier singles numéro 1 au Royaume-Uni uniquement grâce au téléchargement? Est-ce que c'est Bright Light, Bigger City, Forget You, Crazy ou I Love You?
C'est, je pense, Crazy.
Bonne réponse! Hey, c'était une bonne chanson. Ça arrivait de nulle part, hein?
Ça, c'était bon.
Ah, mais hein.
Ouais.
Quatrième question maintenant. En 2004, quel groupe punk rock a secoué la scène musicale avec l'album American Idiot et sa chanson à titre engagé politiquement? Est-ce que c'est Blink-182, Good Charlotte, The Offspring ou Green Day?
Non, c'est Green Day, je pense. Welcome to a new.
Bonne réponse. Avec l'album American Idiot, Green Day a livré une critique féroce de l'Amérique post 11 septembre 2001 et l'air de Bush. Le morceau titre aussi percutant que provocant est devenu un hymne de protestation et en fait a propulsé le groupe là, au sommet de son influence. Cinquième question. Est-ce que tu es prêt, Simon?
Oui, je suis prêt.
Quel artiste a fait danser le monde entier en 2008, ma première année du cégep, avec Just Dance et ce qui était son tout premier single? Est-ce que c'est Katy Perry, Lady Gaga, Rihanna ou Britney Spears?
C'est, je pense, Lady Gaga.
Ah, que c'était bon, ça.
Oui, c'était bon.
Et puis, je te vois danser, c'est rare, oui, Simon, t'avais le rythme dans l'épaule.
Sais-tu quoi, je suis en train de me retremper, non pas à l'époque, parce que rendu dans les années 2000, ça faisait longtemps que j'avais lâché les discothèques, puis les bars, puis les discos mobiles.
Oui, oui, oui.
Ça me fait penser à l'époque où je travaillais justement dans les discos mobiles, puis dans les discothèques, puis qu'on avait de la musique, puis qu'on avait bien du fun.
C'était une belle époque, pour vrai, pour aller danser dans les bars à ce moment-là, parce qu'il y avait beaucoup de chansons qui nous faisaient danser. Donc, justement, Just Dance a lancé la carrière fulgurante de Lady Gaga. Elle est devenue rapidement une icône de la pop, de la mode et surtout de la provocation. Ça, c'était juste avant qu'elle se mette à sortir avec une viande en robe.
Une robe en viande. Non, ouais, c'est bien. Ça, avec des filets mignons, je sais pas trop. Là.
Oui, exactement. Toutes sortes de pièces de viande. Question numéro 6. Quelle chanson de Sum 41, extraite de l'album Chuck en 2004, montre une facette plus mélancolique du groupe avec des paroles sur la solitude et l'acceptation de soi? Est-ce que c'est Some Say, Pieces, No Reason ou We Are All to Blame?
We are all to blame.
Bonne réponse. C'est une bonne réponse, Simon. Bravo. Donc, ça a marqué vraiment un virage plus personnel et émotionnel pour le groupe Sum 41. C'était donc des paroles plus introspectives, avec un rythme plus lent. La chanson a vraiment touché un public large et est restée quand même longtemps là, dans les différents palmarès. Septième question. T'es prêt?
Oui.
En 2010, qui a chanté Love the Way You Lie avec Eminem? Est-ce que c'est Leona Lewis, Kelly Rowland, Rihanna ou Beyoncé?
Oh, wow! 2010, là, que... Est-ce que Rihanna a chanté? Ben, peut-être. Je vais dire Rihanna, mettons. Just gonna stand there and watch me burn.
That's all right because of the way you lie. Bonne réponse!
J'ai vraiment pris un guess, là, parce que, honnêtement, je me rappelais pas que... Je me rappelais pas que Rihanna avait chanté avec.
T'avais un visage surpris, j'aimais ça, mais c'est une bonne réponse. Donc oui, ça a été vraiment un duo qui a marqué l'imaginaire avec la puissance de pouvoir rapper d'Eminem avec son flow qui est assez incroyable. Ouais. Et ben évidemment, la puissance vocale de Rihanna dans cette chanson-là. C'est une chanson aussi qui parle de violence conjugale et ça avait marqué les esprits parce que quelques années avant, Rihanna avait été victime de violence conjugale de par son ancien conjoint Chris Brown.
Ben là, en me faisant réentendre l'extrait, par exemple, je me rappelle tout à fait de cette chanson. Chanson-là. Je me rappelais pas du duo à proprement parler ou de l'association entre Eminem et Rihanna, mais là, quand tu me fais entendre l'extrait comme ça, c'est flagrant.
Oui, puis on s'en souvient, puis c'est un verre d'oreille. Puis j'avais quasiment, quand je faisais le quiz, on dirait quasiment des succès oubliés. Tu sais, les chansons qu'on oublie d'écouter, puis qu'on aimait, puis qui sont bonnes. Fait que on dirait que ça ressemble à ça, là, mon quiz aujourd'hui. Huitième question, on est rendu là. Quelle chanson d'Adèle a marqué le début de l'ère 21 en 2011 et a propulsé sa carrière mondiale? J'aime ton visage, Simon. Est-ce que c'est « Rolling in the Deep »,« Rumor Has It »,« Set Fire to the Rain » ou « Someone Like You »?
Hey, my God!
C'est pas fine, hein? C'est toutes des chansons d'Adèle en plus.
Ben oui, ben c'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire. Je connais pas nécessairement tout le répertoire d'Adèle, mais celle-là, c'est, je vais dire, Rolling in the Deep, on va dire.
Quel album?
Ah, c'est excellent. C'est d'un couvert à l'autre. Je ne l'ai pas personnellement, mais on me l'a déjà fait entendre, puis je dois avouer que c'est une excellente artiste.
Ah oui, puis la voix dans tout ça, la puissance vocale d'Adèle est incroyable. Donc, Rolling in the Deep, c'était la bonne réponse, Simon, qui a démontré toute la puissance vocale d'Adèle. Elle a d'ailleurs remporté plusieurs Grammys et a confirmé l'arrivée d'une nouvelle grande voix dans la pop soul un peu. Et depuis ce temps-là, ben, il y a eu 21, il y a eu 25, il y a eu 19 juste avant son album. Donc, on a vraiment une grande chanteuse qui est là, puis chanteuse. Et si je me fie à la tendance, on devrait peut-être avoir quelque chose pour 30. On est rendu là.
Ben c'est ça. Puis j'allais dire, pour ceux et celles d'entre vous qui se demandent pour quelle raison il y a des chiffres pour ses albums, ben ça suivait son âge.
Exactement. Ça suivait l'âge du moment où elle commençait à écrire, à produire. Puis bon, ses concepts, en même temps, c'est le fun. Quand elle va être plus vieille, elle va pouvoir se souvenir, hey, moi, à 19 ans.
Et je trouve ça très astucieux dans la mesure où on suit l'évolution dans sa carrière, tu comprends? On est capable de dire, là, c'était une jeune adulte en devenir, là, elle était rendue un peu plus mature, et tu sais, puis on voit et on sent l'évolution dans la carrière d'Adèle avec des titres comme ceux-là, Marc. C'est pas parce que tu nommes pas ton album avec ton âge qu'on sent pas l'évolution, mais là t'es vraiment figé dans un time frame.
Oui, exact. Une ligne du temps, c'est en plein ça, puis là, on sait, on est capable de le suivre, puis des fois, avec l'évolution vocale, puis il y a toute l'évolution aussi de l'artiste dans la pochette de l'album, dans l'art de tout se développer, donc j'ai bien hâte de voir ce qu'Adèle nous offrira dans quelques années. J'assume que ce sera pour ses 30 ans. Prochaine question, question numéro 9. Quelle chanson d'Usher avec Lil Jon et Ludacris a enflammé les pistes de danse avec son célèbre « Yeah » Est-ce que c'est « Get Low »
Puis-tu me refaire ça un peu?
« Yeah »
OK, c'est bon. On va rester gravé.
Oh mon Dieu, on a ça sur tape. Yeah. On aurait une vache qui meurt. En tout cas, question... Okay. OK, la chanson, est-ce que c'est Get Low, Hot in Here ou Goodies? Ou Yeah?
Ou Yeah. Je vais dire Goodies, mettons.
Mais c'est Yeah.
C'est Yeah, c'est vrai.
Baby, let's go. When I told her, I said, yeah.
Je pensais que c'était une pogne.
Mais ça aurait pu être une pogne, mais en même temps, des fois, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?
Ben, c'est comme, tu te mets à écrire une chanson, puis tu mets 15 yeah, puis tu essayes de mettre des mots autour de ça.
T'es... Yeah, puis Lil Jon, yeah! D'habitude, tu t'en sors. Donc, voilà, véritable rythme R&B et hip-hop. Yeah a été défini, là, donc, le son de l'année en 2004. Donc, ça a été comme la musique, le son, ça a été vraiment dans les palmarès pendant plusieurs semaines. Donc, c'était un trio explosif et un rythme inoubliable. Et c'est ce qui a aussi lancé la carrière de Usher. Et par la suite, Usher a découvert Justin Bieber qui a ramené à d'autres choses. Donc, quand même, un gros succès. Dixième et dernière question de ce quiz palpitant des années 2003 à 2011. Je trouvais ça drôle de le réintroduire encore. Quelle chanson d'Avril Lavigne, sortie en 2007, a atteint la première place au Billboard Hot 100 et qui est devenue également son plus grand succès aux États-Unis, 2007? Est-ce que c'est Hot, Runaway, When You're Gone ou Girlfriend?
When You're Gone, non?
C'était Girlfriend.
Ouais, c'est ça.
Quand même. Et puis ça a été un gros changement aussi de style pour Avril Lavigne à l'époque, qui était plus dans le pop-rock et qui est tombé plus dans le pop-pop tout court. Donc vraiment, ça a été un son accrocheur. Girlfriend a permis à Avril Lavigne de conquérir un nouveau public, évidemment, un peu plus pop. Et c'était sa première chanson à atteindre les sommets des Billboard aux États-Unis. On aurait pu penser que Complicated l'avait fait ou encore Skater Boy, mais non, ce n'était pas le cas. Donc ça a été sa première chanson au sommet du Billboard aux États-Unis. Et d'ailleurs, cette chanson-là a été traduite en plusieurs langues, dont le mandarin. C'est particulier.
Ah, ouais, hein.
Je vous invite à aller écouter les différentes versions de Girlfriend. C'est quelque chose. Puis il y en a une autre version remix avec Lil Mama aussi. Puis,
c'est elle chante, là?
Oui, oui, tout le temps. C'est quelque chose. Quelque chose. Mais là, j'imagine qu'elle a eu des cours de prononciation.
Ben, j'espère, parce que...
Dans le temps, il n'y avait pas d'intelligence artificielle.
Non.
Elle ne pouvait pas le faire.
Ah. Ben, okay, écoute, voilà. Non, c'est impressionnant quand même.
T'en sors avec combien?
70%.
Oh, bravo!
Je suis vraiment surpris de moi-même.
Hey, c'est un nouveau record?
Ouais.
C'est la plus haute note qu'on a eue dans un quiz.
Ouais, puis je pensais qu'à cette époque-là, ma paralysie musicale était déjà bien installée dans mon cerveau, mais non, c'est quand même pas si pire, 70%.
Wow. Non, ben c'est quand même des beaux gros succès. Puis avec tout ça, là, je vous ai redonné des idées à aller écouter pour vos playlists cet été sur le patio.
Absolument. Merci beaucoup. Merci pour cette émission-ci, puis merci pour la saison.
Ben merci à toi de m'avoir accueilli comme ça. Je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe et j'ai bien aimé.
Ouais, mais pas pire cheveux quand même là.
Bah oui, bah oui, oui.
On a eu une belle complicité.
C'était tout un cheveu.
Tu sais, des cheveux, c'est la soupe qui force à retourner le bol de soupe à la cuisine.
Oui.
J'ai dit comment, on va garder ça comme ça, sais-tu?
Il est pas si pire.
Il est pas si pire. Et c'est toi qui vas prendre la barre de l'émission à compter de la rentrée automnale.
Oui, exactement. Mais tu seras quand même là avec moi en co-animation, donc j'aurai encore le plaisir de t'avoir et on aura des chroniqueurs aussi puis divers sujets qui vont s'insérer dans l'émission.
Ben procédons une bonne été, un bel été. On dit pas une, on dit un, hein?
Un bel été.
Un bel été et puis de belles vacances et puis on va se retrouver au mois de septembre prochain.
Oui, prenez soin de vous et prenez le temps d'en profiter.
Salut, merci.